ça, c'est un petit porte-clés anti-moustique. Ça marche jour et nuit grâce à l'énergie solaire. C'est inodore. Ouais. Et c'est sans danger pour l'animal et l'homme.
Mais ça marche comment ?
CO2, mon amour.
Ben, en fait, il y a des études qui ont montré que la majorité des piqûres étaient provoquées par des femelles fécondées et qui fuient les mâles. Or, ce petit appareil, justement, imite très bien le cri des mâles. Et du coup, les femelles s'en vont.
Denis Chessou.
Alors, ça fait juste un tout petit bruit auquel on s'habitue très, très bien.
Hé, hey, j'entends. C'est épouvantable.
Ah, et hop, il fuit.
Bah, moi aussi, je vais y aller.
Et même si ce n'est pas la saison des moustiques, bienvenue à toutes et à tous. Merci de nous accueillir dans ce magazine de nature et d'environnement, de vous accueillir avec cette émission qui rapproche les hommes en nous rapprochant de la nature, en tout cas qui essaie. Donc vous l'avez bien compris, nous sommes en direct, mais ça c'est comme toutes les semaines, mais aussi donc en public avec vous, avec à la technique aujourd'hui Christophe Michou, Tanguy Le Corneau, Sébastien Huel et assisté de Camille Blanès et Lise Combe qui réalise l'émission. Et on ne va pas s'en priver avec une petite humeur. Non, non, non et non, ça ne va pas du tout. Voyez-vous, j'ai voté Donald Trump car j'apprécie le charisme, le raffinement, la sensibilité, l'humanisme de cet homme. Et qui nous dit quand le bâtiment va, donc tout va. Donc on va faire un mur entre nous autres et ces Mexicains voleurs de patates qui ne font rien qu'à venir manger notre malbouffe. Et Trump nous dit, on va rouvrir les mines de charbon et faire péter le pétrole comme un bouchon de champagne. Alors moi, je suis quand même états-unien moyen, hein. J'astique mon flingue devant la télé en le regardant. Et puis il me dit aussi, donc je le crois, cet homme-là, bien sûr je le crois. Et puis il me dit aussi, les Greenpeace, les WWF et autres ONG, on va les pendre haut et court. Alors ça c'est quand même une partie du programme qu'il a piqué à Laurent Wauquiez. Ça c'est tout à fait autre chose, comme quoi on peut exporter parfois de bonnes idées. Mais surtout, l'accord de Paris, donc il nous dit, je vais le ventiler façon puzzle. Super, un homme qui en a, qui a compris que l'écologie, non seulement ça commence à bien faire, mais en plus ça dessert le business polluant. Alors moi je me dis chouette, il va prendre le patron de BP comme ministre de l'Environnement, hein. Et alors quoi ? Patatras ! Et le mur entre le Mexique et les États-Unis, on va sans doute pas le faire, on va poser une petite clôture, et surtout l'accord de Paris, après l'avoir qualifié de canular, il voulait annuler cet accord, couper les financements de l'ONU, et aujourd'hui il dit... je reste ouvert sur cette question. Je pense qu'il y a peut-être un lien quand même entre le réchauffement et l'homme. On risque de pas y toucher. La déception. J'ai pris 3 fois des chips à l'huile de palme et 12 tequila bières pour me remettre. Ouais. Alors, heureusement quand même, hein, le pipeline qui amènera chez nous les sables bitumineux de l'Alberta ravagés par son extraction, ça semble épargné. Mais quand même, jusqu'à quand? Alors, à qui voulez-vous croire quand même dans ce monde, hein? Un type qui n'a pas encore juré sur la Bible et qui se déballonne à ce point. Et alors, je raconte quoi, moi, demain, à mes enfants et mes petits-enfants? Qu'est-ce que je vais leur dire, quoi? Ah bah oui, on est désolé, on a voulu faire durer les énergies fossiles, flinguer le climat, on n'y est pas arrivé, hein, parce que ces salopards de fabricants d'énergie renouvelable, je suis sûr qu'il y a plein de chicanos, d'ailleurs, parmi eux, ils ont été beaucoup plus forts, et Trump, ce mou des genoux, nous a menti, hein. Si j'avais su, j'aurais voté Donald Duck. Alors évidemment, il aurait pu rajouter aussi « J'espère qu'en France, vous saurez beaucoup mieux résister. Hein. Si vous dites non à l'environnement, restez ferme. » Mais ça, j'y crois pas, parce que ce sera dur. Dans votre pays, on est très, très écolo. Voilà. Alors donc, autour de la table, au fur et à mesure, je vais vous présenter nos différents invités. Frédéric Danhé intervient tout à fait régulièrement dans cette émission. Bonjour, cher Frédéric.
Bonjour, Denis Chessou. Bonjour, le public.
Et oui, nous avons été submergés, il faut le dire. C'est pour ça qu'on va décrypter cette actualité par la place de l'environnement dans les primaires LR. Ça a été assez subliminal, quand même, ce qu'on a entendu.
Oui, c'est ça. On a été bouleversés, mais cela dit, on ne leur a pas posé la question non plus.
Non, c'est aussi un petit peu ça. Donc, nous avons regardé ces programmes. D'un côté, du vin bio bordelais face aux rillettes bio de la Sarthe. Et on regarde les différentes propositions. Alors, les deux aiment la corrida. Les deux caressent les chasseurs dans le sens de la cartouche. Ils sont d'accord pour faire Notre-Dame-des-Landes. Et alors, en ce qui concerne l'agriculture, là, c'est intéressant parce qu'il y a deux documents qui sont assez détaillés.
Oui, alors ils ont des vrais programmes bien charpentants d'agriculture en énergie, parfois en biodiversité, pour Juppé, en environnement. Sur l'agriculture, c'est assez marrant dans la forme, parce que le document propre à l'agriculture ne développe qu'une approche très entrepreneuriale de l'agriculture, alors que l'approche qui est en introduction de ce même document l'approche plus patrimoniale, plus rurale, plus paysanne. On la délègue au document lié à l'environnement, à la biodiversité, comme si on ne voulait pas échauffer les pudeurs de la FNSEA à qui est destiné ce document agriculture. Néanmoins, les deux se rejoignent sur une vision duale. Donc c'est pas le bien ou le mal, c'est pas le conventionnel ou le bio, c'est les deux. C'est à la fois une agriculture entrepreneuriale, une agriculture plus solide face à la grande distribution qui est jamais citée, mais on la sent partout, et en même temps une agriculture, si ce n'est bio, du moins s'en approchant, une agriculture plus familiale. Donc on a les deux systèmes qui sont mis en avant. Le système familial plutôt pour les circuits courts et l'autre plutôt pour l'exportation et la fourniture de molécules pour l'industrie.
En ce qui concerne les normes aussi, qu'est-ce que l'on peut dire ?
Ah ben, sur les normes, pour Fillon, c'est simple, il faut supprimer, abroger les normes françaises qui sont en plus des normes européennes. Chez Juppé, il est un peu mou du genou là-dessus, il s'avance pas trop, mais on sent que c'est un peu la même chose. Les deux sont d'accord sur, alors c'est peut-être pas une révolution, mais on s'en approche, sur un système assurantiel. Hein, qui est le cas notamment en Inde, notamment aux États-Unis, c'est-à-dire que
qu'on va s'assurer sur quoi, contre les risques environnementaux,
contre tous les risques, y compris économiques. En fait, c'est une remise en cause déguisée de la PAC telle qu'elle est actuellement, c'est-à-dire que la PAC et l'État, enfin que l'Europe et l'État français viendraient soutenir les agriculteurs en cas de baisse des prix, quelles que soient les raisons.
C'est-à-dire que c'est un soutien au prix, comme ça se faisait un peu avant, alors, quand même.
Comme ça se faisait avant, et comme les États-Unis le font, c'est un système, c'est une économie d'État, quasiment, le budget agricole américain, depuis la signature du Farm Bill par Obama en 2014. Donc, on soutient les prix par un système assurantiel qui est régulé et qui est abondé pour Juppé par l'Europe, pour Fillon plutôt par l'État. C'est un système, je leur donne juste un conseil, c'est un système assurantiel qui donc est basé sur les assureurs. En France, le problème, c'est qu'il n'y a que deux assureurs du monde agricole.
Donc c'est un oligopole, quoi.
C'est une oligopole. Aux États-Unis, il y a 17 assureurs pour à peu près 3 fois plus, toute proportion gardée, de conseillers agricoles. Aux États-Unis, ça, manifestement, ça fonctionne. C'est un vrai changement dans la politique agricole.
Alors vous qui avez écrit, donc il y a signé aussi votre ouvrage « Cessons de ruiner notre sol ». Voilà. Là, c'est intéressant parce qu'il parle des sols.
Et là, je suis très content, Denis Chessou. Vous avez face à vous un journaliste heureux.
Mais oui, bien sûr.
Pourquoi ? Parce que les deux parlent des sols, ce qui n'existait pas avant. Non. Fillon propose même d'intégrer dans la loi le fait que les terres agricoles, que l'agriculture serait prioritaire sur toute forme d'utilisation des sols, alors que pour Juppé, il faudrait intégrer dans la loi un objectif de réduction de l'artificialisation des terres. Il ne fait en cela que copier ce que fait l'Allemagne depuis 5 à 6 ans. C'est un vrai changement, ça.
Alors, des sols, nous allons passer à l'eau,
mais
quand même.
Sûr.
Bien sûr, ça va. Là, on a un joint absolument direct. Qu'est-ce que l'on constate donc chez Fillon, chez Juppé, en ce qui concerne l'eau ?
Alors, Fillon, lui, les deux veulent financer des stockages d'eau. Alors, stockage d'eau, c'est ou bien Sivens, ou des retenues collinaires, ou des choses. Enfin, voilà, c'est un peu flou, mais attention, on vérifiera ça de près, mon cher Denis. Fillon, lui, propose de financer une renaturation des cours d'eau, de remettre en état les cours d'eau qui sont abîmés. Et pour Juppé, il va encore plus loin. Pour lui, il faut déclarer comme objectif national, alors c'est plus le terme exact, la protection, la préservation, voire la renaturation des zones humides qui, comme vous le savez, sont menacées un peu partout dans le monde.
Bon, lorsque l'on parle d'agriculture, il y a peut-être aussi un chèque alimentaire qui est assez intéressant.
Ça. Alors ça, c'est intéressant. C'est pas dans l'option agriculture, c'est dans les documents liés à l'énergie. Fillon veut développer un Small Business Act à la française, c'est-à-dire que dans les appels d'offres liés aux collectivités, on intégrerait un mieux-disant basé sur quelques critères environnementaux et notamment un critère circuit court, alors que pour Juppé, pour lui, il serait fait obligation, et j'en viens au petit chèque, il serait fait obligation aux collectivités de réserver des achats auprès de fournisseurs locaux. Et dans le Small Business Act de Fillon, il y aurait le chèque déjeuner deviendrait un chèque circuit court. Et on en revient un peu à la proposition qui a été faite au Conseil économique, social et environnemental ce mercredi dans le cadre du rapport sur l'agroécologie qui, en gros, voudra faire une APL alimentaire, un chèque alimentaire ciblé sur l'agroécologie, un peu sur la façon dont l'APL est faite pour soutenir les loyers.
Juste pour vous faire souffler un tout petit peu, Isabelle Saporta donc, est avec nous aussi, donc journaliste intéressant à l'environnement depuis déjà très très longtemps et aussi à l'agriculture. Là, on a une actualité intéressante au Sénat justement en ce qui concerne l'agriculture.
Effectivement, Brigitte Allain, Cocorico, la députée de Dordogne, a réussi à faire passer son amendement sur les cantines bio et locales, c'est-à-dire qu'il y aura 20% de bio d'ici 2020 et 40% de local, de durable. Et ça, c'est hyper bien parce que ça prouve qu'en politique, quand on veut, on peut. Ça fait un an qu'elle se bat avec Joël Labbé, le sénateur, Europe Écologie Les Verts. Et moi, je trouve que c'est un message d'espoir, parce qu'on a beaucoup d'hommes politiques qui nous disent toujours « Voilà, on fait ce qu'on peut, mais on a l'Europe, on a ci, on a ça. » Mais vous voyez, quand ils veulent, ça marche.
Voilà. Alors, revenons maintenant quand même à des choses intéressantes et qui peuvent fâcher. Le nucléaire. Alors, allons-y pour l'énergie. Donc, maintenant, on ouvre la case énergie, Frédéric.
Alors, sur le nucléaire, en fait, ils ne sont pas d'accord du tout, Juppé et Fillon. Fillon, c'est un pro-nucléaire. En cela, il est cohérent. On continue le nucléaire. On investit sur la quatrième génération, c'est-à-dire les surgénérateurs. Point final. Pour Juppé, en gros, quand on lit son rapport, Juppé dit, je le cite, « Le système électrique n'a pas besoin d'ajouter de nouvelles unités nucléaires aux surcapacités actuelles, surtout avec un coût de production du nucléaire nouveau de 40% supérieur aux technologies alternatives. » Derrière tout ça, en gros, on sent qu'il veut laisser le nucléaire étouffer sous son propre poids au profit des énergies renouvelables qu'il promeut, notamment le solaire. Et en gros, il voudrait qu'EDF, enfin qu'on maintienne le nucléaire pour éviter la faillite d'EDF, pour maintenir nos compétences. Et il aimerait que, fort de ce constat, la France... Ben là, il rappelle juste que la France est bien positionnée sur le démantèlement nucléaire et la gestion des déchets. Si ça, c'est pas un enterrement du nucléaire, je sais pas comment ça s'appelle. En tout cas, c'est pas du tout une position proche de celle de Fillon.
Mais énergie renouvelable, là, oui.
À fond. En particulier sur le solaire, que développe surtout Juppé. Et les deux se rapprochent sur une réforme de la réforme territoriale visant à conférer une réelle compétence énergie et transport aux collectivités locales. Alors, reste à savoir si elles auront les budgets en partenariat avec l'État, ce qui aboutirait, par exemple, ici sur Paris, à supprimer la métropole pour n'avoir qu'une seule région qui pourrait légiférer sur les transports. Sur toute
comme
la région,
fait,
y compris Paris.
En Normandie, déjà, ça commence, c'est fait.
Alors, ça, c'est autre chose. Effectivement, les deux prônent une mise en concurrence réelle de la SNCF, mais surtout de revenir à la situation d'avant la SNCF, c'est-à-dire de conférer aux régions à la fois la compétence et les budgets pour entretenir les lignes, pour acheter le matériel roulant. Donc ça, c'est, on revient en arrière derrière la SNCF. C'est ce que fait en ce moment la région Normandie avec Hervé Morin. Ça, c'est un vrai changement.
Bon, mais écoutez, on a déjà effectivement pas mal
il d'éléments. En reste, hein, mais on verra.
Oh, il en reste, oui. Bah, de toute façon, vous pourrez intervenir sans problème. Non, mais c'est vrai que c'est intéressant parce qu'on ne les a pas beaucoup entendus sur ces sujets-là, qui n'intéressent pas forcément le cœur de l'électorat, de toute façon, de cette primaire.
Et pourtant, on voit bien dans ces programmes que, un, ils sont charpentés, et que, deux, il y a 5 ans, ces programmes auraient été impossibles avec tant de verre, si j'ose dire. Comme quoi, les choses ont infusé, évolué, qu'on ne peut pas revenir en arrière.
Oui, ben ça, effectivement, c'est plutôt pas mal. Pascal Canfin, vous êtes avec nous. Qu'est-ce que vous pensez ? Donc, Pascal Canfin a été député européen, ancien ministre, aujourd'hui directeur du WWF. Et si, c'est intéressant aussi dans l'actualité, c'est un sondage qui vient de sortir. Alors ça, voilà, dites-nous tout ce sondage IFOP WWF.
Bonjour à tous et à toutes. Effectivement, ça vient confirmer ce qui vient d'être dit, à savoir qu'il y a aujourd'hui, d'après notre sondage, une majorité culturelle de Français qui sont favorables à un certain nombre de choix forts en matière d'énergie, d'environnement. Le premier élément, c'est le refus de 8 Français sur 10 de la culture d'OGM en France, de la production d'OGM. Pareil pour le gaz de schiste. Or, ce sont des choses qui figurent dans, vous ne l'avez pas mentionné, mais qui figurent dans le programme des deux candidats de droite. Et 7 Français sur 10 sont maintenant favorables au fait qu'on réduise la part du nucléaire de 75% à 50%. D'ailleurs, je note avec une petite ironie que puisque un tiers des centrales nucléaires sont aujourd'hui fermées, on a déjà fait cette fermeture d'un tiers. Et regardez, il y a de la lumière autour de nous, ça fonctionne. Donc ça prouve bien qu'on est en capacité de le faire, puisqu'on l'a fait par accident en quelque sorte, puisque c'est l'autorité de sûreté nucléaire qui a obligé EDF à fermer les centrales. Mais ça prouve que c'était faisable, même pas en 25 ans, même pas en 20 ans, même pas en 15 ans, juste en 6 mois. C'est pas très satisfaisant. Bien sûr, mais ça prouve que entre 25 ans et 6 mois, il y a de la marge pour avancer. Autre élément de ce sondage, ça montre que 7 à 8 Français sur 10 sont favorables à ce que le prochain gouvernement, quel qu'il soit, applique la COP21, les engagements de la France, la neutralité carbone en 2050, c'est-à-dire de dire, en fait, ça rend irréversible, c'est le mot que vous venez d'employer, qui est fondamental, c'est de dire il y a un chemin. Ce chemin, aujourd'hui, on le connaît. Technologiquement, on sait comment on doit faire. La question, c'est est-ce qu'on va assez vite ? La réponse est non, on ne va pas assez vite. Il n'empêche qu'il y a des effets cliqués qui sont en train de se produire. Et on peut citer un seul chiffre. Dans le monde entier, maintenant, depuis l'année dernière, c'est tout nouveau, ça date d'un an, il y a plus de capacités d'énergie renouvelable installées dans le monde que de capacités charbon. Ça prouve que ce qui était inenvisageable il y a 10 ans, il y a peut-être même 5 ans, est en train de se produire. Et au WWF, on a sorti, au moment du G20, donc c'était en septembre, on a sorti la comparaison de toutes les analyses prospectives faites par les plus grands spécialistes de l'énergie, c'est-à-dire l'Agence internationale de l'énergie. Et on s'est dit, mais finalement, dans les années 90, en 95, en 2000, en 2005, en 2010, qu'est-ce que l'Agence internationale de l'énergie prévoyait comme part pour les renouvelables ? Systématiquement, ils se sont trompés et dans les grandes largeurs. Ça veut dire qu'on est sur une logique où la transition s'accélère. Ça a pris plus de temps au début qu'on l'aurait souhaité, je pense tous autour de cette table. C'est en train de s'accélérer. Et donc, il ne faut pas voir, c'est toujours la bouteille à moitié vide ou à moitié pleine. Là, je pense que la bouteille est très clairement en train de passer du côté où elle se remplit plus de la moitié, ce qui évidemment est un message d'espoir, qui est un message positif, et c'est ça qui peut nous donner encore envie d'aller plus vite dans la bonne direction, à savoir celle qui nous permet de limiter ce fameux dérèglement climatique qui est un enjeu non pas technique, seulement d'énergie, etc., qui est un enjeu de civilisation, notamment avec la question majeure des migrants climatiques qui est devant nous.
Et d'où ce livre que vous avez écrit aux éditions du Petit Matin, Réinventer donc le progrès, que vous avez signé avec Laurent Berger, donc de la CFDT, ça aussi. Et puis aussi, les révolutions invisibles, on va en parler dans quelques instants avec Dominique Rousset, 40 récits pour comprendre le monde qui vient, et c'est de cela dont on a besoin. C'est de voir effectivement tous ces signaux faibles, on va dire aujourd'hui, qui commencent à prendre sens. Avant de présenter la première chanson, Frédéric, juste le gaz de schiste, le Fillon Juppé ou Juppé Fillon.
Ils n'en parlent pas dans leur programme. Enfin, Fillon n'en parle pas dans son programme, il ne l'a pas écrit. Par contre, Juppé dit que ça ne sert à rien, non pas pour des raisons techniques ou des raisons écologiques, mais parce que le prix du pétrole et le prix du gaz étant au plus bas, ça ne sert strictement à rien de chercher.
Voilà.
Alors, sur les OGM, ce n'est pas une promotion des OGM, c'est une promotion de la recherche. Ils aimeraient que l'on arrête d'arrêter de chercher sur les OGM. Fillon ouvre une porte, peut-être une boîte de Pandore.
On arrête d'arrêter de chercher. Qu'est-ce qu'ils veulent ?
Non, c'est-à-dire qu'ils aimeraient qu'on continue la recherche publique sur les OGM qui a un peu été
bousculé. Bloqué
ces dernières années. Bousculé. Simplement, Fillon ouvre une porte, c'est accorder des crédits impôts recherche aux agriculteurs pour qu'ils puissent faire de l'expérimentation
bien sûr.
Chez eux. Ce qui peut être une boîte de Pandore pour les semences.
Très bien. Alors, sans OGM, Calypso Rose, ça vous va tout le monde ?
Oui, bien.
Parfait. Allez, on y va.
No!
CO2 Mon Amour avec Denis Chessoux sur France Inter.
Bon, oui, mais il n'est pas tout seul, sinon c'est pas drôle du tout. Voilà, et surtout, vous êtes là. Montrez que vous êtes là quand même. Ben, voilà. Eh oui, quand même. C'est pour vous tous, hein, c'est pour vous tous. Voilà. Et puis c'est une manière de se réchauffer, vous voyez, c'est ça. Hein. Vous pouvez mettre un degré de moins chez vous, vous allez gagner 7 à 10% quand même sur votre consommation. Et si vous applaudissez, c'est formidable. Vous avez votre température interne qui va être merveilleuse. Réinventons le progrès, c'est avec Pascal Canfin. Révolution invisible, 40 récits pour comprendre le monde qui vient. Aux éditions des Liens qui libèrent, cher Dominique Rousset, merci d'être avec nous, voisine de France Culture. Allez-vous bien, Dominique Rousset ?
Fort bien, bonjour Denis Chessoux, voilà, bonjour à tous.
Vous êtes journaliste et puis aussi, bien sûr, productrice de l'émission L'économie en question. Et alors, ces révolutions invisibles, en fait, c'est ce que je disais tout à l'heure, c'est qu'aujourd'hui, enfin ce que disait plutôt Pascal Canfin, on est dans cette mutation du monde. Et c'est toutes ces petites bascules que vous avez voulu un peu pointer.
Oui, c'est ça, on a voulu montrer d'abord ce qui va bien, hein. On est aussi positif et on fait le même constat que celui qui vient d'être fait, on sent que les choses quand même sont en train d'arriver. Vous disiez les politiques mettent un peu plus de temps peut-être à bouger, mais comme on le sait, c'est souvent l'opinion publique qui fait bouger les politiques, donc continuons à faire bouger et continuons à en parler les uns et les autres, c'est évident. Et puis on pointe aussi ce qui nous paraît quand même un petit peu dangereux. J'imagine que dans une émission comme la vôtre, Denis Chessoux, on a déjà parlé des risques, hein. Il y a peut-être aussi des avancées, mais de la géo-ingénierie par exemple, hein, d'envoyer du soufre et des petits ballons de soufre dans le ciel pour rendre l'air plus frais, en gros essayer de réparer le climat après l'avoir bien abîmé, ça nous paraît quand même assez dangereux, en tout cas pour le moins mériter un peu de prudence. Mais c'est vrai qu'on essaie aussi de montrer, alors disons qu'on est parti, vous parliez de progrès à l'instant, nous on est parti un peu du constat qu'on avait un problème au fond aujourd'hui avec la modernité. La modernité peut-être pourrait être traduite par le fait que l'on a tous rêvé, enfin tous, que l'humanité a longtemps rêvé de s'affranchir de la nature, en ce qu'elle avait d'hostile pour elle, d'aller le plus loin possible avec elle. Et puis voilà, là il se trouve qu'on bute tout d'un coup sur les limites de la biosphère qui... C'est curieux, il n'y a plus d'abondance tout d'un coup, alors qu'on croyait qu'elle était infinie naturellement. Et tout d'un coup, la Terre devient trop petite. Et j'ai très envie à ce sujet de faire le lien avec l'économie. De mon point de vue, trop souvent, on entend encore parler d'écologie d'un côté qui devient presque un mot dont on finit par les uns et les autres à avoir honte de l'utiliser parce qu'il a un petit côté presque ringard. Je ne sais pas si vous êtes d'accord, mais on est très méfiant, enfin, on est très prudent avec ce terme. Mais il me semble que c'est... en partie parce qu'on ne fait pas le lien avec l'économie. On vient de parler de deux programmes importants de candidats aux élections présidentielles. Comment ne pas parler d'économie lorsqu'on parle d'écologie? Ça va forcément avec. Et en ce sens, ça nous rendrait un petit peu positif de voir que l'on n'est plus vers une sorte d'économie qui ne va reposer que sur la croissance, ou en tout cas que sur la croissance forte, mais que le constat est désormais fait par les grandes économies développées et celles du monde en développement d'ailleurs, que la croissance n'est plus ce qu'elle était et que c'est peut-être une bonne chose. Je parle absolument pas de décroissance, naturellement, n'est plus ce qu'elle était, qu'elle doit se passer autrement et qu'elle reste très stimulante parce que justement elle accompagne des transformations de la société. Donc retour à mon point de départ, c'est bien à la société de faire comprendre que l'économie, l'écologie doivent marcher ensemble.
Alors ça, on le voit dans ces 40 révolutions invisibles. Et là, vraiment, ça fait écho avec réinventer donc le progrès avec vous, donc Pascal Canfin, parce que en fait, vous avez voulu en fait nous montrer cette notion de modernité. Là, vous avez parlé évidemment d'un monde aujourd'hui, on le sait, c'est un monde fini, mais à une époque, évidemment, le monde était infini, Pascal.
Et Dominique Rousset vient de dire qu'on ne peut plus parler d'environnement sans parler d'économie. Ouais. Et inversement, on ne peut plus parler d'économie
absolument,
sans parler du
absolument
fait que nous vivons sur un monde limité et aux ressources finies. Et effectivement, c'est le premier livre, ce livre que nous co-signons avec Laurent Berger, qui est fait par un responsable d'ONG environnementale et par l'un des responsables du premier syndicat de France, ou le patron des premiers syndicats de France, la CFDT. Pourquoi ? Parce que justement, on veut faire bouger les lignes. On veut plus être chacun dans son silo où les syndicats parlent de social, les entreprises parlent d'économie et les écolos parlent d'environnement. C'est vraiment là le monde d'hier. Ce qu'on veut au contraire, c'est croiser les préoccupations et trouver les dispositifs qui permettent d'accélérer les solutions qui sont là. Encore une fois, si la COP21, par exemple, à Paris a réussi, c'est pas parce que c'est un point de départ, c'est parce que c'est la première fois où on arrive à catalyser des choses qui sont déjà dans le changement de la société, le changement des entreprises. Et ce qui est intéressant, c'est ce qui s'est passé à Marrakech il y a quelques jours à la COP22, où vous avez 360 entreprises qui ont lancé un message à votre ami Donald Trump pour dire appliquez l'accord de Paris. Oui. Appliquez l'accord de Paris. 360 entreprises qui sont présentes aux États-Unis. Et ce qui est très intéressant, alors déjà, ça c'est vraiment une nouveauté, c'était inimaginable il y a 10 ans. Et en plus, cet appel fait la une de plein de quotidiens économiques mondiaux, dont les Échos en France. Ça prouve que la presse économique, la presse business, la presse financière, qui pendant très longtemps s'est dit ces sujets-là, c'est anecdotique, c'est accessoire, c'est secondaire, met en une le fait que 360 grandes entreprises mondiales disent à Donald Trump, il faut faire l'accord de Paris. On est vraiment en train de basculer culturellement. Or, ce qui fait les grands changements dans le monde, dans l'histoire, sont moins des changements politiques au sens partisan du terme que des grands changements culturels. Et je discutais avec un Américain il y a quelques jours qui me disait « Donald Trump va finalement revenir sur le climat au principe de réalité ». Quand on pense qu'il y a, allez, je ne sais pas, 15 ans, peut-être même 10 ans, on disait « Ah, c'est l'utopie, le dérèglement climatique ». Non, c'est le principe de réalité. C'est-à-dire qu'il y a eu un basculement entre l'utopie et la réalité. Et donc, au fond, ce livre « Réinventer le progrès », c'est un principe de réalité. Soit on continue à raconter des histoires, avoir la tête dans le sable, etc. Et on sait qu'on va vers un monde chaotique, un monde difficile, un monde que je n'ai pas envie de transmettre à mes enfants. Soit on réinvente la notion de progrès humain, mais évidemment en intégrant les questions environnementales.
Les pays scandinaves, objectif 100% d'énergie renouvelable. Voilà, donc société engagée vers aussi la transition écologique.
Bien sûr.
C'est une des plus égalitaires au monde, d'ailleurs.
Et c'est ça qui est intéressant, c'est que les sociétés les plus égalitaires au monde, les pays scandinaves, sont aussi les plus écologiques. Et je pense qu'il faut se poser la question. Pourquoi ? À l'inverse, les sociétés les plus inégalitaires au monde, la société américaine, l'Arabie Saoudite et d'autres, sont aussi les sociétés les plus fermées, les plus hostiles, où la question est la plus polarisée. Pourquoi ? Tout simplement parce que d'un côté, on est tous dans le même bateau. Les inégalités de revenus sont relativement resserrées. De l'autre côté, on ne vit plus dans le même monde quand il y a des écarts de 1 000, 10 000 de revenus mensuels. Et donc, comme on n'est plus dans le même monde, pourquoi prendre soin de notre monde unique.
Dominique Rousset.
Non, juste un tout petit point pour aller dans le sens de Pascal Canfin. Les injustices environnementales sont très, très importantes et c'est vrai que ça se passe dans les pays les plus disposés à corriger ces erreurs énormes. Mais ce que je voulais ajouter aussi, c'est vrai que les entreprises, 350 entreprises, 360 entreprises ont signé dans leur intérêt bien compris en disant à Trump, mais ça va pas, là, on va perdre beaucoup d'argent si on va dans cette direction-là. C'est donc quelque chose de très réaliste. Mais ajoutons aussi quand même que les États américains, poussés par leurs citoyens, encore une fois, sans doute, mais dans beaucoup d'États américains, il se passe des choses extrêmement intéressantes. Attention à ne pas faire l'amalgame. Les États-Unis ne veulent pas du changement climatique. De la lutte contre le réchauffement climatique.
Isabelle Saporta.
Mais moi, ce que je trouvais très intéressant, Dominique Rousset, c'est ce que vous disiez tout à l'heure quand vous avez dit, au fond, on a été jusqu'à présent dans une politique de shadow, c'est-à-dire qu'on cherchait toujours des solutions de bout de tuyau pour corriger les bêtises qu'on a, pour pas dire pire, qu'on avait faites avant. Et moi, justement, sur cette question de cantine bio, moi, ce que je trouve génial, c'est que non seulement ça va offrir des revenus à nos agriculteurs qui sont en pleine crise, et que ça résoudra, par exemple, les problèmes qu'on a en eau. Aujourd'hui, il y a 90% des points de surveillance de nos eaux de surface qui sont contaminés par les pesticides. Mettre du bio au-dessus des captages bio, ça nous permet d'arrêter de déléguer notre service public à l'eau en permanence, de payer des fortunes à des groupes industriels.
Ce que l'on a fait à New York depuis déjà longtemps.
Et qu'on a fait à Munich, qu'on a fait un petit peu partout, ouais. Qu'on arrive à faire à Lons-le-Saunier, donc on peut faire de façon plus générale en France. Donc aussi essayer de voir de façon créative et inventive comment réenchanter le monde avec l'écologie, parce qu'on l'a vendu comme quelque chose de punitif jusqu'à présent. Les enfants peuvent manger bien, on peut boire de l'eau saine, et tout ira bien, madame la marquise, donc faisons-nous plaisir.
Et on localise des emplois.
Exactement, on relocalise des emplois. Et là, il y a eu un rapport qui est juste cette petite précision qui vient de sortir de l'Institut technique de l'agriculture biologique hier, dont personne n'a parlé, qui est génial, et qui dit qu'effectivement, on va créer énormément d'emplois locaux, pérennes, indélocalisables. Rien que sur la viticulture, il y a 50% d'emplois en plus en bio. Mais pourquoi on ne se fait pas plaisir, quoi ?
Frédéric Doré, non, mais tout ceci recoupe ce que l'on dit, nous, depuis des années. C'est que, bon, certes, relier l'homme à la nature, ça, c'est notre boulot, mais aussi l'écologie ou l'environnement bien compris, c'est la première des sciences sociales.
C'est une science sociale, donc c'est une science politique. Hein. Quand vous parlez de biodiversité aux élus, de but en blanc, vous leur faites peur. Quand, d'ailleurs, la biodiversité, vous mettez la capacité des sols bien fertiles, c'est-à-dire bien riches en vie, à accueillir de l'eau, bah, vous réduisez le risque d'inondation, le risque d'érosion des sols qui les affligent et augmentent leurs primes d'assurance. Et puis l'écologie, c'est, bon, on le voit bien avec les cantines scolaires, on soutient une agriculture de proximité, on soutient une agriculture biologique ou agroécologique, donc on fait du bien à tout le monde, et en plus on fait du bien aux gens qui ont le plus de mal à se nourrir correctement ou à se nourrir simplement. Juste un point sur les 360 entreprises, ces mêmes entreprises veulent un prix du carbone élevé. C'est un long combat. Toutes considèrent que les distorsions de concurrence d'aujourd'hui entre les marchés, qui ne peuvent que s'accentuer avec sans doute la fin de la mondialisation, qui va aboutir à des marchés à nouveau régionaux protégés, ces distorsions de concurrence ne pourraient être corrigées qu'avec un prix du carbone élevé, voire des
extensions. Exactement, ce marché ne marche pas. On est autour de 6 euros la tonne, donc c'est ridicule.
Alors Fillon aimerait 30 euros dans son programme, Juppé 50, sachant qu'il faudrait être à 100 euros, je crois, entre 2020 et 2030. Enfin, c'est, encore une fois, c'est quand même un sacré changement. Alors on pourrait dire qu'effectivement, on dérive sur le marché, l'action de la loi, le respect de la réglementation, c'est le marché qui va faire la protection de l'environnement. Non, le marché, il est ce qu'il est. Si on peut l'utiliser en le capant correctement, en le réglementant, tant mieux.
Puisque vous aimez aussi les sols, que nous aimons
c'est vrai,
les sols, eh bien, il y a un animal que vous aimez beaucoup, c'est le ver de terre.
Ah oui.
On est bien d'accord. Alors écoutez cette ode d'André Mainviel, mais qui va être courte. Ver de belles vertus.
Ver de belles vertus, il travaille c'est l'hiver en terre, un petit ver solitaire, oui, il a belle vertu, histoire de nous faire de l'air sous la terre. Ver de belles vertus, fait l'humus des traces de vie des petits vers solidaires. Ver de belles vertus, histoire de nous fertiliser la terre. Un ver moulu de vermis aux trois vertigos, dix vers de vin, deux vers de lui, trois vers d'elle, un ver luisant de nuit, un ver hiver et sentinelle. Des vermis grands, des vermis sels, des vers classiques, des lombriques, les pigés, l'endogé, l'anésique, des vers à pied libre de circuler comme l'air.
CO2, mon amour. Denis Chessou. Sur France Inter.
Ver de belles vertus, il travaille c'est l'hiver en terre, en petit ver solitaire, oui, la belle vertu, histoire de nous faire de l'air sous la terre.
Voilà, vive les lombriques, vive les vers de terre, et ce n'est pas donc Christian Laborde ici présent avec son ouvrage Le sérieux bienveillant des platanes qui nous dira le contraire et qui m'a suggéré, il m'a dit ah ben ce serait pas mal de passer avec cette musique de Marc Perron, donc cet homme-là. Bonjour cher Christian Laborde.
Bonjour Denis, vous... et bonjour le public.
Ben oui, et vous avez écouté donc ceci avec pas mal d'intérêt vous-même, parce que vous allez signer votre ouvrage. Et alors aussi, il y a deux ouvrages. Vous êtes là aussi parce que vous venez de recevoir le prix de 30 millions de chiens, de chats, de fourmis, de hérissons, autrement dit de 30 millions d'amis, hein, c'est
oui,
ça.
Oui, c'est cela.
Section cause animale, oui. Pour la cause des vaches. Vous avez reçu à cette occasion-là,
oui.
Pour ce plaidoyer en
c'est
faveur
cela,
des vaches.
La vache dit parce que je le vaux bien.
Hein. C'est ça.
Voilà. Non, c'est et beau. Donc le prix.
C'est bien. Bien. Voilà, ça mérite des applaudissements. La vache dit parce que je le vaux bien. Eh bien, vous avez bien fait de venir. On peut terminer l'émission là-dessus. Peut-être on va voir. Je vous en prie.
Oui, donc je suis ravi, bien entendu, d'avoir ce prix dans la mesure où il met un coup de projecteur sur un ouvrage qui dénonce
les
fermes des mille vaches, ouais. Et la cruauté du productivisme et de cet élevage carcéral qui a été mis au point avec l'accord de la FNSEA, avec l'accord de Monsieur Bruno Le Maire, avec l'accord de Monsieur Le Foll, et qui risque de continuer avec les candidats futurs. Alors donc, il va falloir se battre là-dessus. Le livre le fait. Et c'est en même temps une célébration de ce magnifique et paisible animal qui nous enseigne la lenteur, qui, à l'heure de l'épilepsie sociale, nous apprend à prendre notre temps, à regarder. Je rappelle que la vache a quatre estomacs. Elle rumine, donc elle pense. Il faut prendre le temps comme elle. Et qui plus est, dès l'instant que les vaches ne sont plus dans les champs, on ne les voit donc plus et on perd une portion de beauté. Lorsque je regarde une vache avec ses taches claires et sombres sur le dos, j'ai l'impression de voir une portion de ciel. Les vaches sont des portions de ciel qui marchent. Et donc, le soir, l'étable devient le parking du ciel. C'est à cela que l'on touche en incarcérant les vaches. Et donc, je m'y oppose.
C'est une page de poésie que vous nous avez offerte.
Très beau.
Donc on est très loin des usines à bouse et des usines à lait, où d'ailleurs effectivement c'est d'abord la bouse qui compte pour fabriquer donc de l'électricité via la méthanisation.
Mais moi c'est nuit de bouse.
Nuit de bouse, c'est ça, c'est parfait.
C'est nickel ça.
C'est très, voilà, mais, on en a eu pas mal là c'est
non,
bien.
C'est
mais,
bien. Mais vous savez, c'était André Valadier, vraiment l'homme fort de l'Aubrac, celui qui a créé
oui.
la coopérative de montagne, qui me disait, moi quand j'ai réintroduit effectivement les vaches dans l'Aubrac, que j'ai voulu qu'elles soient au pré, que j'ai voulu faire du lait cru, j'ai dit à mes agriculteurs, pensez une bonne fois pour pour toutes que le soleil ne se lève pas à l'ouest et qu'il ne faut pas faire du modèle productiviste breton, qu'il faut revenir à quelque chose de fort, d'ancré dans le territoire, parce que vous avez raison, c'est comme ça qu'on fait vivre le territoire.
Bien entendu, parce que là, ces fermes usines entraînent évidemment un prix du lait plus bas, les paysans ne peuvent pas s'aligner, et donc les fermes des mille vaches, la disparition des petits paysans, qui dit disparition des petits paysans, dit disparition des paysages, parce que ce sont les paysans qui font vivre les paysages. Il n'y aura donc plus que des friches industrielles et également ces épouvantables ronds-points que les conseils généraux multiplient à perte de vue.
C'est très beau, ces ronds-points.
Alors donc, il faut se battre aussi pour les vaches et contre les ronds-points. On a du boulot, hein.
On a l'impression qu'il y a un marchand de graines de rond-point, vous savez, qui passe.
C'est ça.
Et donc, tel le marchand de sable, il sort ses graines.
C'est ça.
Et hop, vous avez après des ronds-points qui poussent.
Et des hypermarchés.
Et des hypermarchés.
Et des hypermarchés, Denis.
Pardon, cher Frédéric.
C'est l'autre grande industrie française, l'hypermarché.
Bon, et ben voilà, donc tout va bien. Non, mais on vous le dit, en même temps, c'est ça. On est dans cette période absolument de clair-obscur. On ne sait pas très bien comment ça va évoluer. Et donc, non, mais la période est intéressante, Pascal Canfin, parce que tout ce que l'on raconte là n'existait pas il y a encore 10 ans, etc. Et voilà. Et donc, vous avez des gens qui se sont dit, bon, ça nous fait peur, où est-ce que l'on va aller, etc. Ce monde est en train de bouger.
Bouger, c'est très positif, et en même temps, c'est normal, comme tout changement, que ça puisse inquiéter, puisque ça, l'évolution, ce qu'on appelle la mutation, la transition, la conversion écologique, peu importe le terme, bah, c'est de passer d'un point A à un point B.
C'est-à-dire d'une société merveilleusement décadente à une société plus apaisée.
Plus apaisée, plus désirable, qu'on se fasse plaisir. Je veux dire, c'est qu'est-ce qui, il faut toujours se poser la question. Pourquoi on accepte de manger plein de pesticides? Pourquoi on accepte de respirer un air de moins en moins bonne qualité? Pourquoi on accepte autant de dégradation de notre cadre de vie? Et donc la question n'est pas tant pourquoi on ne va pas dans cette direction-là que pourquoi on accepte de ne pas y aller. Et n'empêche que la réalité, c'est qu'aussi, il y a des gens, vous parliez des agriculteurs, vous parliez des grands distributeurs, bon, il y a un certain nombre de lobbies, mais il y a aussi des situations où vous êtes salarié dans une centrale à charbon. Par exemple, en France, il y a 5 centrales à charbon. Mmh. Si on veut réduire nos émissions de CO2, il faut fermer ces centrales à charbon. Il n'y a pas de raison que les salariés en soient victimes. Et donc, c'est pour ça que dans le livre « Réinventer le progrès », avec Laurent Berger, on fait cette proposition.
Et en Pologne, avec 100 000 personnes qui travaillent aussi.
Imaginez en Allemagne.
Dans ce domaine,
Et donc, qu'est-ce qu'on fait comme proposition? C'est de mettre en place un contrat de transition écologique. C'est-à-dire que concrètement, on sécurise les parcours des salariés qui vont être négativement affectés par la transition, sachant qu'au final, toutes les études montrent, alors on a un paquet, qu'à la fin, il y a beaucoup plus d'emplois qu'au début. Pourquoi ? Parce que, bon, si on prend le seul exemple de l'agriculture, comme ça a été mentionné, l'agriculture biologique, par exemple, ou agroécologique, est beaucoup plus intensive en emploi. Donc elle remplace du capital, des machines, des pesticides par des emplois et du travail humain. Donc ça crée des emplois, et c'est vrai pour les services à la personne, c'est vrai pour plein de choses. Donc à la fin, il y a plus d'emplois, mais il n'empêche que pour certaines personnes, ben, c'est pas positif. Et ça sert à rien de se cacher derrière son petit doigt. Il faut affronter cette réalité, et pour l'affronter et la dépasser, il faut mettre en place un contrat de transition qui permet, encore une fois, de sauter le pas et d'aller vers ce monde de demain dont on a tant besoin et tant envie.
Alors, on est en train effectivement d'inventer un nouvel imaginaire, mais alors justement, dans l'agriculture, Frédéric Danhué, est-ce que dans le programme, il y a quelque chose sur la formation, on va dire, des jeunes? C'est extrêmement important, entre autres dans les lycées agricoles.
Ben c'est seulement chez Juppé. Alors c'est juste 3 lignes, mais au moins il en parle. Voilà, qu'il faut reformer, c'est pas dit comme ça, mais on le comprend entre les lignes, qu'il faut reformer les agriculteurs et qu'il faut réformer les écoles d'agriculture, les lycées agricoles. Il va même plus loin, il considère, mais Fillon aussi, mais c'est dit de façon plus limpide chez Juppé, qu'il faut encourager la reformation des artisans du bâtiment à ces nouveaux métiers liés à la transition écologique et à la formation de gens sur les énergies renouvelables, en particulier sur le solaire. Mais effectivement, il y a un vrai problème de formation en France, notamment dans les lycées agricoles.
Je vais juste vous raconter une petite anecdote marrante là-dessus. Il y a un viticulteur que j'adore qui est à Saint-Aubin, en Bourgogne, et qui est en biodynamie, donc vraiment depuis des années. Et il y a 15 ans, les gens qui venaient...
C'est près de la Rochepot, c'est ça. Vous descendez de la Rochepot, vous arrivez à Saint-Aubin, c'est bien
là. Vous êtes très fort.
Vers Beaune.
Et donc, exactement. Et donc, il y a 10 ou 15 ans, quand les élèves du lycée viticole venaient le visiter, en fait, c'était jamais ceux qui étaient en finière ENO, c'était jamais ça. C'était ceux qui avaient un prof de sport qu'il adorait et qui venaient dans les vignes. Aujourd'hui, quand même dans les filières œnologiques, même dans les lycées viticoles, il y a des très, très gros efforts qui ont ont été faits, et donc il faut le souligner.
Alors, il nous faut évidemment de la lumière et du soleil pour les panneaux solaires, mais il faut aussi de l'ombre. Et vous avez l'ombre bienveillante des platanes, chère Christian Laborde, le sérieux bienveillant des platanes. Ce n'est pas exactement un bouquin sur l'écologie, hein, loin de là, mais c'est un roman, on va dire, que vous appelez intitulé Blablacar. Racontez-nous quand même.
Oui, c'est un roman Blablacar parce que le lecteur est embarqué dans la voiture du héros. Et le héros qui s'appelle Tom, qui est un jeune rocker, qui vient d'apprendre le décès de son grand-père et qui quitte Paris avec sa copine en bagnole pour aller enterrer le grand-père à Lumac. Donc, et
nous avons Lumac, on a donc des sonorités au voyage du
c'est
sud-ouest.
C'est un son hack, quelque part entre la Bergerac et l'Ariège, le sud-ouest, enfin, là où l'on. Enfin, un pays plein de swing, quoi, un pays nougarien. Hein.
Je comprends.
Et donc là, dans la bande son du roman, il rentre sur Lumac en écoutant The Clash, en écoutant Bachung, et à la musique se mêlent les souvenirs, et puis évidemment cette enfance et ce grand-père adoré qu'il va retrouver, et les platanes, parce que le souvenir de Lumac, pour lui, ce sont les platanes. Et alors évidemment, c'est une célébration des platanes, dans la mesure où c'est l'arbre qui nous donne l'ombre la plus délicieuse. Et j'en prendrai la preuve que les meilleurs bistrots sont entourés de platanes.
Oui.
Donc c'est à l'ombre du bistrot.
Il s'appelle le bar des.
Le bar des platanes.
Oui.
On y pose le vélo, tu le sais bien. Ça,
je sais bien. Voilà. Oui.
Et donc là, on peut boire des coups peinards à l'ombre des platanes. Et simplement, aujourd'hui, cet arbre populaire qui a la lumière des lampions du 14 juillet aussi pour nous, eh bien, cet arbre est souvent scié, fusillé par la société de consommation. Et j'ai vu des départementales, notamment une entre Maubourguet et Vic-Bigorre, une ligne droite magnifique.
Donc, nous sommes dans l'Haute Pyrénées.
Super bien à vélo, là. Eh bien, ils ont retiré tous les platanes. Donc, alors, il y a à la fois l'histoire intime
non,
de ce gamin.
Parce que le platane sortait bourré d'une boîte de nuit à 3h du matin. Et on comprend la douleur des parents aussi, on veut bien tout
oui,
admettre.
Mais le problème, c'est que la jeunesse ne supporte plus l'alcool. C'est ça. C'est un vrai problème. Donc,
oui, je comprends. Oui.
Je veux dire, le platane, lui, il est là avec sa beauté, donc il faut rouler doucement. Mais bon, c'est une éducation, l'alcool. Et donc, tout le problème, c'est la disparition de cet arbre qui est assez miraculeux.
Vous ne l'écrivez pas, il est au deuxième degré, je vous rassure. Continuez.
Cet arbre est miraculeux. Et je vois aujourd'hui, on les scie pour laisser passer, dans le sud-ouest, par exemple, un convoi exceptionnel. Alors, qu'est-ce qui est exceptionnel ? Le convoi ou l'arbre ? C'est l'arbre l'exception. C'est lui le miracle. Donc, il faut laisser la priorité aux arbres. Donc, voilà, c'est une célébration de l'arbre, de la lenteur, là encore. Et puis, c'est une histoire d'amour entre deux jeunes rockers un peu destroy, mais voilà.
Non, mais c'est bien, voilà. Parce que vous amenez ça. Là, il n'y a pas de vache. Hein. Je ne crois pas qu'on ait beaucoup de vaches.
Il n'y a pas de vache qui passe. Mais j'ai amené aujourd'hui au studio. J'ai amené le troupeau. J'ai mon troupeau de mots à signer tout à l'heure. Les vaches sont là.
Très bien. Donc, vous avez votre troupeau de mots.
Ils viennent vers toi
Christian
avec toute leur amitié.
Mais j'espère bien. Voilà. Bah, écoutez, on va s'offrir un petit coup de Julien Doré. Et puis on vous retrouve. On a encore des choses à raconter, hein, il me semble.
Oui, oui. Allez.
Promets-moi d'oublier. Si demain tu regrettes. tes mains sur les bords du lac, ton cœur sur mon corps qui respire, pourvu que les hommes nous regardent, amoureux de l'ombre et du pire. Tes mains sur les bords du lac, ton cœur sur mon corps qui respire, pourvu que les hommes nous regardent.
Choc, très tendance et pas cher, durable au moins une fois par semaine, c'est CO2 Mon Amour avec Denis Chessot.
Avec France Inter et Radio France qui fête le livre donc en direct, j'en profite aussi pour vous dire que ça va être le début du salon du livre de Montreuil sur la jeunesse qui m'est extrêmement cher aussi avec la tulle du Montilou. Ce sera à partir de mercredi à Montreuil. Et donc autour de la table, eh bien Dominique Rousset avec aussi son ouvrage avec Florent Augagneur qu'elle a écrit, Révolution invisible, 40 récits pour comprendre le monde qui vient aux éditions des liens qui libèrent, qui vient de recevoir un prix 2016 qui a été décerné, c'était le prix de l'environnement, par le département de l'Isère, me semble-t-il, et aussi la région Rhône-Alpes. Et dedans, on voit aussi des formes tout à fait intéressantes de nouvelles, enfin, on va dire d'économies nouvelles, qui heureusement commencent à se répandre. Et là aussi, quand même, quelques mots, on connaît déjà cela, mais quand même, vous les pointez bien.
On peut en dire quelques-unes, effectivement. Pascal Canfin, à l'instant, vient de parler, de nous dire, mais pourquoi on serait obligé de manger des produits mal faits, mal trafiqués, je ne sais. Et moi, j'ai envie de dire, pourquoi est-ce qu'on serait obligé d'acheter, par exemple, des téléphones portables, voire même des voitures, dont on sait qu'ils sont destinés à mourir dans les quelques années qui vont suivre, voire les quelques mois, ce qu'on appelle l'obsolescence programmée. Pourquoi ? Qu'est-ce qui nous obligerait à ça ?
Ça veut quand même dire qu'on a payé des cerveaux quand même intelligents, des ingénieurs aussi,
pour
prévoir
absolument.
La petite pièce qui va péter pour changer le truc et faire tourner la machine.
C'est très pointu, mais il y a d'autres gens en face qui se disent, mais dans le fond, l'économie de la fonctionnalité, c'est pas mal non plus. C'est parti de Xerox, qui fabriquait des photocopieuses, qui s'est rendu compte que c'était assez compliqué, ces photocopieuses, puisque... Précisément, il y a ça et puis il y a la publicité qu'on fait autour des produits qui vous incite aussi évidemment à en changer régulièrement. Qui s'est rendu compte que finalement ça lui coûtait extrêmement cher de refabriquer constamment de nouvelles photocopieuses, en plus en y mettant des composants parfois extrêmement chers, il paraît qu'il y avait même de l'or, et qui donc a demandé à d'autres scientifiques de réfléchir à des moyens de garder, de préserver ce produit-là. Et finalement, je fais court, mais ça arrive plutôt à vendre le service de la photocopieuse que la photocopieuse elle-même. Alors évidemment... Ça encore, c'est une modification de l'économie qui est fort intéressante et qui peut prendre un peu de temps et qu'il faut faire prudemment réussir aussi parce qu'elle peut, dans certains cas, effectivement, mettre en danger les emplois. Je ne sais pas, c'est vraiment, je le dis avec beaucoup de prudence, mais c'est extrêmement intéressant de voir comment on peut donner une vie différente à des produits. On les reprend, on les répare et puis on les remet en circulation et on loue le service du produit. Michelin l'a fait avec des pneus, les fameux pneus inusables. Il passe des contrats. Alors évidemment, il faut que le contrat soit long, il faut qu'il soit sérieux, mais il passe des contrats avec des compagnies routières de camions et qui, eux, donc, utilisent les pneus qu'on reprend lorsqu'ils sont usagés et qu'on leur redonne ensuite. Vous voyez, c'est une manière différente d'aborder l'économie. Je pourrais parler aussi de l'économie circulaire. Il me semble qu'elle est un peu plus connue, hein, comment me remettre en circulation des produits ou leur donner un autre usage, une deuxième vie. Ça aussi, c'est très important. Et mon dernier point, si vous le permettez, juste pour dire que tout ceci, il y a encore quelques années, décidément, on est tous un peu sur un constat, me semble-t-il, comparable, pouvait paraître, c'est sympathique, mais enfin c'est un truc de bobo, il faut quand même pouvoir se le faire, de faire son petit jardin à soi, ou bien de remettre en circulation, de perdre du temps à recycler ses déchets.
Ça a évolué.
Ça a énormément évolué, ouais. Et je crois que la meilleure preuve en est peut-être que les pays en développement, dont on ne parle pas assez dans toutes ces affaires-là, sont extrêmement engagés aussi sur ce genre de pistes. Vous savez, l'économie, au fond, de la frugalité, elle nous vient de l'Inde. C'est pas nouveau. Et l'Inde était bien obligée de dire comme ça. Beaucoup de populations indiennes ont compris, bien avant ce que nous sommes en train de réaliser, qu'il fallait être économe sur la produit, sur la consommation, et qu'il fallait préserver notre nature. Donc, voilà, deux ou trois formes d'économie. L'économie du partage, bien sûr, hein. Je te prête mon saxophone et tu me donnes 3 heures de leçons d'anglais pour mon fils. Ça, c'est un peu mieux connu aussi. Mais ça marche, et ça marche très bien dans les... Je pense que vous serez d'accord avec moi, ça marche bien en province, on n'est pas qu'à Paris ici, largement.
Mais ça marche. Mais vous avez tout à fait raison, Dominique Rousset, ça marche très bien. Partout, la preuve, il y a des entreprises d'électroménager aujourd'hui, Made in France en plus, Cocorico, qui ont décidé qu'elles allaient relancer la réparation. Parce qu'on perd des milliers d'emplois chaque année de réparateurs, d'artisans. Et ça, c'est des emplois pérennes, indélocalisables. Alors que les usines, on sait bien ce qu'il en est. Aujourd'hui, elles sont toutes délocalisées. Donc, créons des emplois locaux.
Ce qui est intéressant aussi, Pascal Canfin, et ça, on le dit dans cette émission régulièrement, et vous le dites dans Réinventer le progrès, c'est qu'on sort peut-être à un moment ou à un autre, c'est pas encore fait, d'une vision, on va dire, de la performance pure, qui est donc fondée sur l'optimisation des coûts, sur l'épuisement des ressources, et le capital humain revalorisé comme facteur de richesse commence à s'y intéresser. Ça y est.
Moi, je pense que le 21e siècle, ce sera la productivité des ressources qui sera le levier majeur d'innovation, de progrès. Dominique Rousset vient de le dire, là, j'ai un téléphone portable devant moi. En fait, c'est une mine. C'est une mine. Il y a des centaines de composants dedans. C'est une mine. Sauf que personne n'oblige les fabricants à fabriquer les téléphones de telle façon à ce qu'on puisse les recycler, les recasser, les redécomposer facilement pour ensuite les réutiliser. Au plus, il y a l'obsolescence programmée. Donc là, il faut de l'intervention publique pour que les règles soient claires, de dire vous ne pouvez pas mettre sur le marché un téléphone, ou tout autre produit électronique par exemple, si vous n'êtes pas capable de faire la démonstration qu'il est recyclable, redémontable, pour qu'on passe d'une économie linéaire qui va massacrer les forêts, détruire les écosystèmes avec une explosion de notre boulimie de ressources minières, vers une économie circulaire, donc d'une économie linéaire à une économie circulaire qui ne va plus chercher les ressources dans la nature, qui la laisse tranquille, mais qui va chercher les ressources là où elle est, là où elles sont, c'est-à-dire déjà dans nos objets fabriqués, dans nos déchets, ce qui fait qu'on peut fabriquer de l'énergie à travers des déchets. Tout ça, ça existe, on sait le faire maintenant. Sauf que si on veut changer d'échelle, et c'est bien ça le sujet, il faut que les règles du jeu changent. Certaines entreprises y sont prêtes, d'autres font du lobby au contraire pour bloquer les choses. Un grand distributeur, dont je ne citerai pas le nom par charité, a bloqué un processus à l'Assemblée nationale qui visait justement à lutter contre l'obsolescence programmée. Grand distributeur qui commence par D et qui a fait de tout son positionnement marketing le fait qu'il vous vend une garantie.
Ah oui, d'accord, on voit bien.
Voilà, vous voyez bien. Mais tout d'un coup, il vous le vend, donc vous payez. Mais si ça devient obligatoire, du coup, c'est obligatoire, vous ne le payez plus. Donc forcément, son lobby était de dire non, l'obsolescence programmée, c'est bien, mais en théorie, mais pas en pratique.
Alors on retrouve
donc
ça
il y a une bataille à mener quand
dans
même.
Dans Réinventer, bien sûr, le progrès aux éditions du Petit Matin. Juste un tout petit mot, parce que Christian Laborde, terminons comme ça avec vous. Vous n'êtes pas venu forcément à vélo, mais à Pau, c'est formidable.
À Pau, boulevard des Pyrénées, le célèbre boulevard des Pyrénées, Belvédère donnant sur la montagne, il y a un boulevard, une route. Eh bien, on vient de la diviser en deux dans le sens de la longueur et d'en faire une moitié piste cyclable. Une piste cyclable en béton désactivé fin, le granulat est apparent et c'est beau. En plus, on a une place identique à celle des arrogants 4x4 des avocats d'affaires incultes. Donc nous, sur nos vélos, on passe là et ensuite... je te le dis, pour la gomme, il y a un rendement terrible
formidable.
Pour la roue.
On
peut rouler à bloc sur le boulevard des Pyrénées.
Merci Christian Laborde et donc avec cet ouvrage aussi. Vous pouvez les applaudir, le sérieux bienveillant des platanes. Merci à vous tous. Merci à Camille Blanès, notre assistante et collaboratrice formidable. Et Elise Combe, donc, qui a réalisé cette émission. Dans quelques instants, ce sera la librairie francophone d'Emmanuel Quirade. Et merci à vous tous.